Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Monsieur l'administrateur, Monsieur mon administrateur, comme on dit en Afrique, mon cher Gilles Boeuf, je suis évidemment très heureux d'être ici et de me retrouver dans cet amphi que je connais bien, que j'ai connu pendant bien longtemps. Alors, j'ai entendu mon ami Reeves commencer par un beginning joke. Moi aussi, j'adore les beginning jokes, les plaisanteries de démarrage. Et c'est une manière anglaise, mais une manière très, très sympathique. Et je réfléchis toujours au joke que je vais vous raconter. Et je pense à celui-ci. Un jour, à Londres, j'avais au premier rang un vieil ami, un vieux collègue qui était venu spécialement pour m'écouter. Il était très âgé, il habitait dans le Surrey, il ne venait plus à Londres. C'était un spécialiste des chauves-souris, on fait ce qu'on veut. Hein. Et donc, il était content d'être là, content de me voir. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il était sourd, comme il n'était pas permis. Et donc, je commence mon beginning joke, il rit beaucoup. Et puis après, je passe aux choses sérieuses, il a ri pendant toute la conférence. Alors ça, j'avais beau lui faire signe, ça c'est épouvantable, parce qu'à ce moment-là, c'est difficile à rétablir. Et je voudrais vous raconter une autre histoire, parce qu'elle me plaît bien. Et elle s'est passée au Muséum national d'histoire naturelle, Gilles. C'était avec un vieil ami qui était directeur du zoo. Et on avait eu une idée simple et un peu bête, de voir si les chimpanzés étaient véritablement nos cousins, et donc de faire une expérience qui était assez banale, c'est de leur mettre des bananes au plafond si haut qu'ils ne pouvaient pas les atteindre. C'est malin, hein ? Il faut être chercheur pour faire ça. Et on avait mis une table dans un coin, et on s'était dit, si le chimpanzé a l'idée de tirer la table sous les bananes, monter sur la table, il ne peut toujours pas atteindre les bananes, mais c'est quand même un premier degré. Et on avait mis une chaise dans un autre coin, et si le chimpanzé, deuxième degré, a l'idée de tirer la table sous les bananes, de prendre la chaise, de mettre la chaise sur la table, de monter sur la table, de monter sur la chaise, alors il peut attraper les bananes. Alors, on fait ça. D'ailleurs, je ne te dis pas, le boulot pour accrocher des bananes au plafond, d'abord. Ensuite, on fait rentrer une chaise, on fait rentrer une table, on fait rentrer le chimpanzé. Et comme au zoo de Vincennes, qui est superbe désormais, on n'était pas bien équipé, on commence l'observation par le trou de la serrure. Et je dis à mon collègue et copain, regarde ce qui se passe. Donc, il regarde et il me dit, pour rien du tout. Je dis, c'est pas possible, on a tiré la clé. Non, c'est pas possible. Et les volets ne sont pas fermés, donc tu dois voir quelque chose. Regarde encore, il regarde et il me dit, oh, c'est pas ce que j'ai vu, l'œil du chimpanzé. Donc c'est bien un cousin, c'est bien un cousin. C'était ridicule, hein. Mettre des bananes à un chimpanzé, il a dû se dire pourquoi ils me les mettent là aujourd'hui alors qu'il me les apporte dans une assiette tous les jours. Donc voilà mon beginning joke. Les chimpanzés sont bien des cousins. Alors, j'ai écrit ce qui ne m'arrive pas d'habitude, mais tant pis. Donc, je vais essayer de vous lire intelligemment. L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? Un joli titre, hein ? Alors, avant d'y répondre, mon rôle consiste évidemment à mettre l'homme en place, d'un point de vue historique, en l'occurrence préhistorique, pour vous le livrer sapiens, posant des problèmes à la terre, à la vie, à sa propre espèce. Il y a plus de 10 millions d'années, alors je ne prendrai pas tout à fait ton relais, Hubert, je prendrai 10 millions d'années parce que le temps ici a beau être long pour mon sujet, il est court pour mon propos. Donc il y a 10 millions d'années, en Afrique tropicale, des primates supérieurs, on les nomme hominidés, ont eu une descendance qui, pour des raisons environnementales, c'est très simple, hein, pour des raisons environnementales, leur descendance s'est trouvée divisée en deux. Une partie de cette descendance a dû se développer dans un milieu forestier, un milieu couvert, peut-être forêt dense, et l'autre partie dans un milieu mixte, on dit mosaïque, forêt claire incontestablement, mais forêt quand même, et espace découvert. On a regardé les pollens, il y a beaucoup de graminées. En tout cas, incontestablement moins couvert. Donc il y a les ancêtres communs, et puis deux enfants. Il y en a un qui, par hasard, se trouve dans un milieu très couvert, l'autre dans un milieu moins couvert. On dit... les descendants s'étant, par hasard, retrouvés dans un milieu forestier, étaient les pré-chimpanzés, qui allaient devenir les chimpanzés, et les descendants s'étant, par hasard, retrouvés dans un milieu de forêt claire et de grandes clairières à graminées, étaient les pré-humains qui allaient devenir les humains. C'est ce qu'on appelle les homininés. Un terme un peu technique, mais c'est ainsi. C'est évidemment cette deuxième histoire, cette deuxième voie qui nous intéresse ici aujourd'hui, et elle va se traduire par une adaptation, par une curieuse sélection naturelle, le redressement du corps. Ça, moi, j'en suis pas encore revenu, quand même. C'est drôle, hein, ce bricolage de la nature. On se redresse. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. On connaît aujourd'hui 3 genres et 4 espèces qui illustrent joliment ce choix. Sahelanthropus chanensis dit Toumaï, 7 millions d'années du Tchad, Aurorine tugenensis, 6 millions d'années du Kenya, Ardipithecus cadaba, 5 millions et demi, Ardipithecus ramidus, 4 millions et demi d'années, dit Ardi, tous deux d'Éthiopie. Ce qui veut dire que les homininés, nous, notre branche, sont vraiment caractérisés par leur station debout permanente. Ça, j'y tiens, parce que quelquefois c'est contredit. J'y tiens, et il y a une manière très simple d'étudier ça quand on regarde l'histologie des bassins. Le bassin de quelqu'un qui est debout doit supporter toute une partie du corps. Eh bien, les trames, les grandes lignes de force de cette histologie, au lieu d'être parallèles comme chez le singe, se croisent. C'est-à-dire qu'il y a un chiasma des trabécules, pour soutenir le reste du corps. Je ne sais pas si vous m'avez vu debout, mais mon pauvre bassin, il doit supporter un bon paquet de kilos. Mais ça me regarde. Donc ce nouveau port, la possibilité que nous avons acquise d'étendre à la fois le tronc, le bassin, la cuisse, la jambe, s'accompagne logiquement d'une locomotion bipède. Mais cette locomotion n'en est pas moins alors doublé d'une locomotion arboricole. Ça a été une découverte grâce à Lucie, en fait. Ce curieux squelette qui est à la fois adapté à la station debout, à la bipédie et à l'arboricolisme. Lucie reste grimpeuse, en l'occurrence là on est avant Lucie, mais c'est pareil. C'est donc probablement l'exploitation pour la première fois des arbres et des espaces découverts, au lieu d'être des arbres tout court, ayant d'ailleurs entraîné une alimentation de fruits en l'air et de racines à terre, qui a été à l'origine de cette adaptation, qui a dû répondre correctement à ce qui était souhaité, puisque nous sommes encore debout. Le corps redressé a entraîné une série particulièrement importante de transformations mécaniques, faciles à comprendre. Transformation de la main, libérée en partie, position de la tête sur la colonne vertébrale, courbure de la colonne vertébrale, transformation du bassin, dans lequel d'ailleurs le conflit redressement du corps, parturition, a entraîné cet accouchement en avant de l'ischion, cet accouchement antéischiatique si particulier de la femme et des préhumains et des préhumaines, l'allongement du membre inférieur, etc., etc., et bien sûr, transformation certaine de l'encéphale qui doit gérer toute cette révolution morphologique et comportementale. On n'a pas à l'intérieur du cerveau. et le cerveau demeure petit, mais il est évident qu'il y a une transformation pour aller avec des comportements si nouveaux. J'avais préparé des exemples, mais je sais que le temps est court. Je vais vous en citer un seulement, Aurorine. Vous savez qu'on a cité, que je viens de citer, Sahelanthropus, Ardipithecus et Aurorine. 7 millions, 6 millions, 5 millions et demi, presque 6. Eh bien, Aurorine tugenensis, c'est une forme qu'on a trouvée au Kenya. Et cette forme, on en a quelques fémurs, on fait ce qu'on peut hein, en paléontologie, et un humérus. Or, les fémurs présentent des traits anatomiques précurseurs de la linea aspera. Alors, les médecins, les anatomistes ici savent bien ce que c'est. La ligne âpre, c'est une espèce de petite rugosité qui est à la surface du fémur et qui correspond à l'insertion du gluteus maximus. Alors, pardon, mais le gluteus maximus, c'est la fesse. Or, quand on a des fesses, c'est qu'on est debout. Et même Buffon écrivait « Il n'est de fesses que chez l'homme ». C'est joli, hein. Il y a trois gluteus. Hein. Vous pouvez dire « Je m'assois sur mes glutéos, sur mes muscles glutéos », c'est original. Mais il y a un gluteus minimus, un gluteus medius, un gluteus maximum. Et nous, on a un gluteus maximus épouvantable. Et l'humérus présente, quant à lui, l'humérus d'Aurorine, une importante insertion du muscle brachio-radialis, ce qui signifie que Aurorine grimpait. Donc voilà la ligne âpre sur le fémur, Aurorine est debout et Aurorine marche. Et puis voilà ce muscle de l'humérus qui montre que Aurorine grimpe. Deuxième étape, vers 4 millions d'années. On en était à 10, hein. Cette fois c'est 4. Toujours en Afrique tropicale, cette tendance à l'ouverture du paysage s'accentue. Pour moi, c'est le même changement climatique qui se fait un peu par étapes et qui se poursuit aujourd'hui. D'autres homininés apparaissent alors entre 4 et 3 millions d'années, plus agressifs, au dimorphisme sexuel cette fois important, marchant et courant mieux, tout en continuant pour la plupart à grimper. Ils marchent et ils grimpent toujours, sauf un. C'est le temps, pardon pour les détails, mais un peu technique, d'Australopithecus Barrel Algazi, dit Abel du Tchad, d'Australopithecus Afarensis, dit Lucie d'Éthiopie, Australopithecus Prometheus, dit Littlefoot d'Afrique du Sud, Kenyanthropus Platyops du Kenya, Australopithecus Anamensis du Kenya. Mais Australopithecus Anamensis est le premier qui, probablement, ne grimpe plus. Donc, dès 4 millions d'années, on a des préhumains, des homininés, qui sont debout en permanence, ça va de soi, ils l'étaient déjà précédemment, qui marchent, ça va de soi, ils marchaient aussi avant, mais qui ne grimpent plus. Donc, on est déjà dans la situation locomotrice actuelle. Troisième étape, probablement dans le même mouvement climatique, la même tendance donc à l'assèchement et à l'ouverture du paysage que l'on a vu apparaître il y a 10 millions d'années, que l'on a vu s'accuser il y a 4 millions d'années, de nouveaux homininés apparaissent dans toute l'Afrique tropicale à partir de 3 millions d'années. Alors, j'interrogerai tout à l'heure, hein, 10 millions, 4 millions, 3 millions, 3 millions d'années. La diversité des réponses des homininés à ce nouveau changement est d'ailleurs un superbe exemple de la créativité de la nature. Et en même temps, de ses limites. La même sollicitation du climat, les réponses souvent très comparables ne sont jamais tout à fait semblables. C'est de la biodiversité par excellence, c'est de la diversité en l'occurrence humaine. Et cette diversité varie en fonction des niches écologiques. Autrement dit, face à ce nouveau coup de sécheresse de 3 millions d'années, les hominidés, écoutez ça, moi je trouve ça magnifique comme exemple, répondent en effet par 5 solutions, 5 parades. C'est dire que la famille est créative. Premièrement, une forme robuste en affaire, et en affaire seulement, comme si c'était une niche écologique spécifique. Australopithecus gari, long membre, très grosses dents, face projetée, petit cerveau. Deuxièmement, une séquence de formes robustes en Afrique de l'Est, Sud-Éthiopie, pas le Nord puisque c'est la phare, Kenya, Tanzanie, Malawi. Paranthropus éthiopicus, Paranthropus boisei, très robuste, avec une dentition très spécialisée, petite batterie antérieure et énorme séquence postcanine, et petit cerveau aussi. Troisièmement, une forme robuste en Afrique du Sud, Paranthropus robustus, corps robuste et dentures spécialisées comme en Afrique de l'Est, petite batterie antérieure coupante et énorme séquence postcanine broyante, mais petit cerveau. Quatrièmement, une séquence de forme plus gracile, Australopithecus africanus, Australopithecus sediba, en Afrique du Sud, marcheur et grimpeur, incontestablement meilleur marcheur d'ailleurs, et meilleur coureur, mais toujours petit cerveau. Et cinquièmement, nous y voilà, et cinquièmement, une forme plus gracile en Afrique de l'Est, l'homme, le premier homme, l'homo habilis, marchant mieux, ne grimpant plus, à dentition nouvelle d'omnivore, il se met à manger de la viande par nécessité, et à cerveau nettement plus gros, celui que tu n'aimes pas, Hubert. À cerveau nettement plus gros, plus compliqué, on le voit par les circonvolutions, mieux irrigué, on le voit par les vaisseaux de la dure mère, et avec tous les comportements nouveaux qui forcément accompagnent ces innovations. Voici donc l'homme, le genre humain, il y a 3 millions d'années, en Afrique tropicale, né, j'insiste, de la nécessité de s'adapter ni plus ni moins à un changement climatique. Il se trouve qu'il y a eu 5 solutions et qu'il y a eu cette solution à grosse tête en Afrique orientale, semble-t-il. Mais c'est au même titre que l'éléphant, son voisin, qui lui a changé le fût de ses molaires, ou que le cheval, son autre voisin, qui a réduit le nombre des doigts de sa patte. Mais il se trouve que la sélection naturelle a choisi pour l'homme un plus gros cerveau et que ce cerveau, ayant passé un certain seuil de complexité, sans doute, a atteint un certain seuil de réflexion. Au lieu de se contenter de savoir, l'homme a su qu'il savait et il s'est mis à anticiper ses actions. C'est la raison pour laquelle il est désormais accompagné tout de suite de pierres taillées, de pierres qu'il a transformées avec d'autres pierres pour leur donner des formes correspondant aux fonctions auxquelles il est destiné. Je répète donc, le préhumain est devenu humain par nécessité d'adaptation à un environnement subi. Pour mieux comprendre l'évolution du genre humain durant les 3 millions d'années de son existence, hein, 3 millions d'années le premier homme, je me suis amusé à découper cette durée de son parcours en 4 parties complètement inégales. Hein. C'est tout à fait de mon fait. Première partie, vous allez voir, de 3 millions d'années à 10 000 ans. De 3 millions d'années à 10 000 ans. L'homme est un chasseur, un pêcheur, un cueilleur, un prédateur. Il nomadise en fonction des saisons de chasse et de cueillette et puise sans problème ce dont il a besoin dans la nature. Son développement est durable, tout à fait durable, bien que son économie soit une économie de prédation, comme on l'a dit. Comme sa démographie a doucement augmenté, doucement, grâce à son adaptation réussie, comme sa chasse l'a rendu plus mobile, sa réflexion plus curieuse, ses outils plus efficaces, et développant d'ailleurs un nouvel environnement que l'on appelle culturel, il a bougé, et il a bougé tout de suite. Il s'est déployé à partir de son berceau tropical et africain, pour moi, dès 2 500 000 ans. Il est né il y a 3 millions d'années, il n'a pas attendu de passé à d'autres phases pour bouger. Il a bougé, évidemment, il n'est pas parti à la conquête de la Terre, mais il a bougé très rapidement, je pense, dès 2 500 000 ans. Et il a d'abord couvert l'Afrique, ça va de soi, dans le sens de la géographie, puis le Proche-Orient, et par le Proche-Orient, toute l'Eurasie, aussi bien l'Europe à l'ouest que l'Asie à l'est, puis par le Bering, beaucoup plus tard, l'Amérique, et par bateau, l'Australie et toutes les îles. Son environnement est donc subi. Retenez ça, s'il vous plaît. Deuxième partie, il y a 10 000 ans. Vous voyez que c'est un grand saut. L'homme est partout sur la planète, à part au Groenland et sur quelques îles. On estime son effectif au mieux à 10 millions d'individus. On dit 10 millions d'individus il y a 10 000 ans. Je crois que c'est pour mieux retenir les chiffres, parce que c'est évidemment très approximatif. On dit autour de 200 millions au changement d'ère, au moment de Jésus-Christ, 200 millions à 300 millions. C'est la fin de la dernière glaciation, donc nouveau changement climatique. Les climats deviennent dans beaucoup de régions plus tempérés, et au lieu cette fois de subir ce changement climatique, l'homme, qui a considérablement développé ses comportements culturels, va conquérir ce changement, l'utiliser à son avantage. Donc, après l'environnement subi, c'est l'environnement conquis. Il se trouve que c'est d'abord au Proche-Orient qu'il s'arrête. On a fait beaucoup de mesures et beaucoup de datations. C'est incontestablement au Proche-Orient que ça commence. L'homme se sédentarise pour mieux cueillir, d'abord, pour mieux cueillir les graminées qui abondent. Mais à force de les cueillir et de les stocker, il va lui venir l'idée de les semer. Étant désormais fixé, la domestication de certains animaux va devenir plus simple. Et là aussi, de manière logique, il passera de la domestication à l'élevage. Imaginez-le dans sa maison, désormais installée, avec le silo à grains d'un côté, l'étable de l'autre. Son développement est toujours parfaitement durable, mais son économie de prédation est devenue une économie de production, mais il y a 10 000 ans seulement. D'environnement subi il y a 3 millions d'années, il a donc renversé la vapeur et grâce à sa culture, ce changement d'environnement-ci, il l'a conquis. Troisième partie. Ce n'est qu'au XIXe siècle, vous vous rendez compte, il y a 200 ans, que l'effectif de l'humanité atteint pour la première fois le milliard d'individus. D'où production de masse pour alimentation de masse. On entre dans l'ère industrielle, celle du développement des sciences et des technologies. Et pour la toute première fois dans son histoire, la tendance s'inverse doucement mais sûrement. L'environnement dans lequel on puise laisse voir ses limites. On est au bord de la durabilité, mais on ne s'en rend pas compte. J'ai appelé cette période l'environnement surpris. C'est pas très malin, hein. Ça veut dire, j'y ai beaucoup réfléchi, hein. Surpris, ça veut dire pris en excès, hein, comme le petit singe tout à l'heure. Et surprise parce qu'on s'en aperçoit pas. J'ai trouvé dans Adam Smith, un auteur du XVIIIe siècle, les ressources naturelles sont renouvelables. Et dans Gandhi, XIXe siècle, pourtant sage par excellence, le monde contient bien assez pour les besoins de chacun. C'est-à-dire qu'au moment où ça nous arrive, on ne s'en rend pas compte. Donc, environnement subi, environnement conquis, environnement surpris. Quatrième partie, elle n'a pas un siècle. À 3 millions d'années, on était quelques milliers. Au 19e siècle, on a atteint le premier milliard d'individus. Ce qui veut dire qu'on est passé de quelques milliers à 1 milliard en 3 millions d'années. Et soudain, grâce au génie de l'homme, quand même, moi j'admire l'homme et l'humanité, et l'humanité qui se porte bien, autrement, elle n'aurait pas fait ça. En 200 ans, on est passé d'1 milliard à 7 milliards, je crois 7 milliards 200 millions d'individus. C'est évidemment une exponentielle qui ne peut se faire sans quelques remous, sans quelques bousculades. Or, on vient de s'en rendre compte, depuis moins de 100 ans. On vient de se rendre compte que l'humanité avait des besoins et que les dimensions de la Terre, dont on a pris mieux conscience en tournant autour en 90 minutes quand même, que ces possibilités de la Terre avaient des limites. Et j'ai appelé cette phase l'environnement compris. Tu vois que je suis optimiste. Compris, la preuve, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Donc, mieux contrôler l'exploitation de la planète. Donc, environnement subi, compris sur... l'environnement subi, conquis, surpris, compris, mais je suis optimiste et confiant en l'humanité. En tout cas, que l'on cesse de jeter la pierre. Oui, je voudrais dire deux choses, là. Un apport de la paléontologie, d'abord. J'entends quelquefois, j'ai beaucoup d'amis écologistes. D'ailleurs, c'est très amusant parce que Nicolas Hulot, par exemple, me dit « T'es pas très écolo, toi, hein ?» Je dis « Non, pas trop. Mais on t'aime bien. » Quand même, c'est agréable. Quand après les 80 premières années de son existence, on vous dit « on t'aime bien », c'est sympathique. Les écologistes, certains écologistes un peu sectaires, ont tendance à jeter la pierre à l'humanité, à dire « c'est la faute de l'humanité ». Non, la paléontologie nous a expliqué, j'espère que vous l'avez bien suivi, que l'humain, il y a 3 millions d'années, n'a fait rien d'autre que la girafe voisine ou que l'éléphant voisin ou le cochon d'à côté ou le cheval qui était un hyparion à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour s'en sortir, pour arriver à survivre. Et il se trouve que la survie est passée par un accroissement du cerveau. Qui pouvait-il ? Et à ce moment-là, il s'est mis à puiser dans la nature et on ne peut pas le lui reprocher. Donc la paléontologie nous apprend que l'humanité n'a fait que ce qu'elle avait à faire. On n'a pas de reproche à lui faire, sinon aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui où elle a pris conscience d'une certaine réalité, d'une certaine responsabilité, bien sûr que là, à ce moment-là, on passe à un autre niveau, à un autre plan, et nous sommes à la fois libres, mais responsables de notre liberté. Ça, c'est entendu. Mais je tiens à cette leçon de la paléontologie. La leçon de la géologie, maintenant. On me dit aussi, beaucoup de ces mêmes personnes me disent aussi, quelle tristesse, la Terre s'entropise. C'est vrai que quand on survole la Terre, on voit quelquefois des régions naturelles, de moins en moins, et on voit beaucoup de parcellisation, c'est-à-dire d'installation humaine sur pratiquement la totalité de la Terre. Mais j'ai souvent dit à un autre ami, qui s'appelle Yann Arthus-Bertrand, sur son film Home, que tout le monde d'ailleurs appelle Home, quand même, on pourrait mettre un H, ce serait plus agréable. Donc, dans son film Home, que ses images sont superbes, mais que son discours ne serait pas le mien. Moi, je mettrais un autre discours sur ces images-là. Alors, si je vous dis qu'il y a une leçon de la géologie, c'est que la Terre est née il y a 4 milliards 600 millions d'années. La vie est née sur la Terre il y a 3 milliards 800, 3 milliards 600 millions d'années, dans l'eau. Et elle n'est apparue sur la Terre, qu'il y a 450 millions d'années, disait Gilles Boeuf tout à l'heure, 450 millions d'années. Ça veut dire que la Terre, pendant tout ce temps-là, des milliards d'années, a été minérale. Et si quelqu'un avait existé il y a 400 millions d'années, il aurait dit « quelle tristesse, cette naissance de la vie, elle biologise la surface de la Terre ». La Terre qui était si belle, rien que de cailloux, tout d'un coup se couvre de la vie, c'est une pollution. La Terre est tout d'un coup biologisée, elle se couvre de plein de petites herbes, de plein de petites plantes, de plein de petites bestioles, c'est dégoûtant. C'est, alors, je plaisante, bien sûr. Mais ceci dit, ce n'est pas différent du fait qu'aujourd'hui, depuis 3 millions d'années, l'homme est apparu, l'homme s'est développé, l'homme a conquis la Terre, et bravo, moi je trouve ça tout à fait extraordinaire, il l'a conquise et il continue à la conquérir de façon extravagante, et du coup cette Terre perd un peu son look biologique au profit d'une anthropisation, c'est plus de la biologisation, c'est de l'anthropisation. Mais après tout, c'est en train de se faire en attendant la prochaine transformation. La vie n'est pas arrêtée, l'évolution n'est pas arrêtée, la Terre a encore quelques 5 milliards d'années devant elle à vivre. Donc elle peut très bien, après cette minéralisation, cette biologisation, cette anthropisation, prendre encore une autre allure. En tout cas, voilà ce que la paléontologie d'une part, la géologie d'autre part peut apporter, et je vous remercie beaucoup.